They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的母亲达米加正忙
着正忙着。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rocchini, mais aussi Hélène Paquet, Xavier Martinet, Clément Salazar, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en ondes ce matin par Nicolas Delmas. Dernier volet de notre série consacrée aux animaux, plaidoyer pour un rugissement. Aujourd'hui, des corridas au combat de coq, l'animal au cœur du jeu.
Je suis venue manifester surtout parce que je pense qu'il n'est pas éthique de s'amuser quand cela implique du sang, la mort et la souffrance d'un animal.
C'est un spectacle légal. On ne peut donc pas permettre ces attaques. Je pense que ce sont des tentatives, des manœuvres pour faire du mal à la fiesta.
Les citoyens espagnols pensent de plus en plus que les mauvais traitements et la torture dans une arène doivent être interdits. Les trois quarts de la population sont contre.
Ils veulent supprimer la corrida ? Ils ne pourront pas.
Un parti politique n'a pas le droit de tuer une tradition.
La proposition de loi de modification de l'article 6 sur la protection des animaux a été approuvée par décret législatif par 68 oui, 55 non et 9 abstentions.
Et oui, on s'en souvient, il y a quelques années, le Parlement catalan avait interdit la corrida. Plus récemment, le 28 octobre dernier, le Parlement européen a adopté un amendement prévoyant de supprimer les subventions aux élevages de taureaux destinés à la corrida en Espagne. Une décision attendue depuis longtemps par les défenseurs des animaux, mais qui a finalement été déboutée par la Commission européenne en novembre. Motif, eh bien, cette décision entraînait une discrimination illégale entre les éleveurs.Ce vote du Parlement européen illustre toutefois l'audience croissante des arguments des militants de la cause animale. Ces dernières années, ils ont obtenu une série de succès dans une Espagne de plus en plus sensibilisée à la question de la souffrance animale. Après l'interdiction de la corrida aux Canaries en 91, puis en Catalogne en 2010, le Parlement des Baléares a récemment approuvé une proposition d'arrêté demandant entre autres la suppression des spectacles taurins. Une pétition intitulée Mallorca senza sangre, Mallorca sans le sang, a recueilli 150 000 signatures dans l'archipel. Selon le quotidien El Mundo,À peine 30% des Espagnols s'intéressent désormais à la corrida et le nombre d'arènes est passé de 902 à 433 entre 2007 et 2014. Longtemps silencieux, les défenseurs de la corrida ont riposté le mois dernier en descendant en masse dans les rues de Valence au cri de « Liberté, liberté !» rappelant qu'il s'agit là d'un bien culturel protégé par la Constitution. On le voit, la querelle est toujours aussi vive, mais derrière l'argument de la cruauté envers les animaux se cachent souvent des raisons peut-être plus politiques et culturelles.En interdisant la corrida en 2010, la Catalogne indépendantiste n'a-t-elle pas d'abord voulu rejeter un symbole de la culture ibérique ? Pour répondre à cette question, il va falloir prendre un petit peu de champ et regarder aussi comment les jeux taurins se sont diffusés ailleurs, notamment en Amérique, et comment ils se sont différenciés d'une certaine manière de ceux qui se déroulaient en Espagne. Notre invité ce matin pour évoquer toutes ces questions, Frédéric Somat, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, professeur à l'université d'Aix-Marseille et puis membre de l'Institut d'ethnologie méditerranéenne européenne et comparative. On a parfois tendance, Frédéric Somat, à réduire cette opposition entre partisans et opposants de la tauromachie à la seule question de la souffrance animale, qui est une vraie question bien sûr centrale, cruciale. On a d'ailleurs consacré ici même mardi une émission au droit animalier. On disait combien il était important d'obtenir des avancées en la matière, maisCette fracture-là, elle cache peut-être une autre fracture, peut-être plus culturelle, plus politique. C'est pas tout à fait un hasard si le Parlement catalan a interdit la corrida. C'est pour des raisons bien sûr éthiques et morales, mais aussi peut-être parce qu'elle incarne une certaine culture espagnole, en l'occurrence la culture andalou. Et l'interdire, c'est aussi un signe par lequel on rejette une certaine hispanité, Frédéric Somat.
Oui, je crois que votre analyse est juste. Mais moi, dans votre présentation, il y a un chiffre qui m'a frappé, que j'ignorais. Il y a eu un sondage donc, qui dit que 30% seulement, entre guillemets, 30% des Espagnols sont intéressés par la corrida. Mais je trouve ce chiffre énorme. C'est considérable, 30% des Espagnols, ça fait énormément de gens. Et donc, il est évident que ça, maintenant, on mesure un petit peu et que la passion pour la corrida régresse en Espagne, ce que nous disent à grands cris les protecteurs des animaux, c'est possible.
Mais ce qu'on voit d'ailleurs quand on va en Catalogne, on voit des arènes qui ont été désertées bien avant l'interdiction d'ailleurs du Parlement, qui ont été transformées par exemple en centres commerciaux, pour en avoir vu moi-même.
Oui, absolument. Mais la Catalogne, c'est un exemple type. Je veux dire, encore une fois, on a toujours une image d'Épinal des choses. Alors l'Espagne, on va dire l'Espagne, c'est un ensemble. Non, l'Espagne, c'est un pays très contrasté, comme la France. Et donc, il y a des régions, il y a des traditions. Et si vous allez à Séville ou à Madrid, il y a beaucoup de gens qui aiment la corrida. Ce sont des traditions très fortes.
Sans compter qu'on a des corridas très différentes. La corrida andalouse, c'est pas la même que celle qu'on va trouver dans la région de Navarre, par exemple.
Je vais y venir. Bien que la corrida andalouse soit pratiquée en Navarre, avec beaucoup de passion. La Feria de Pampelune présente des corridas andalouses, de tradition andalouse. Alors, pour les auditeurs, il faut quand même un petit peu préciser les choses. La corrida espagnole, certes, c'est ce que les Espagnols appellent la fiesta nacional, enfin, en tout cas, les amateurs de corrida, mais c'est une tradition d'origine andalouse, et qui est devenue la tradition nationale par le jeu, un jeu très politique, aussi, des noblesses et des cercles de pouvoir qui relient Madrid et Séville de manière à peu près continue depuis le XVIIe siècle. Donc là, il y a eu un effet de pouvoir, effectivement, qui s'est imposé aux traditions taurines d'autres régions, comme la Navarre, par exemple, où la tradition n'était pas une tradition de mise à mort, mais plutôt une tradition de jeu, de saut et de jeu plutôt fantaisiste avec les taureaux, dont les gravures de Goya, qui étaient aragonais d'ailleurs, les célèbres gravures de la Tauromaquia, sont une représentation très, très intéressante. On voit des toreros navarrais qui s'opposent aux toreros andalous et qui combattent dans un style différent. Et puis, c'est l'impérialisme andalou, c'est un véritable impérialisme, il faut bien le dire, qui se diffuse jusqu'au sud de la France et jusqu'en Amérique, en Amérique latine. À Nîmes, on danse par Sévillane pendant la feria. Donc, c'est vraiment un impérialisme culturel qui s'est diffusé de cette manière-là, parce que le spectacle andalou, le spectacle de la corrida andalouse, est un spectacle qui a une puissance médiatique beaucoup plus forte que les autres formes de tauromachie. Et pour les auditeurs, encore une fois, il faut bien préciser, vous l'avez suggéré, qu'il y a d'autres formes de tauromachie et qui sont diffusées entre le sud des régions du sud de la France, certaines régions d'Espagne, pas toutes, il y a des régions d'Espagne, il n'y a pas du tout de tauromachie en Galice, par exemple, ou encore dans le nord de la Catalogne.
D'autres continents, on va parler du Mexique.
Pour la Catalogne, c'est extrêmement intéressant, parce que la Catalogne est divisée en deux parties. La Catalogne du Nord, les provinces de Gérone et de Barcelone ou de Lérida ne sont pas du tout tauromachiques, effectivement. Elles ne sont pas taurines. Tandis que la Catalogne du Sud, province de Tarragone, et en particulier Delta de l'Ebre, est une des régions les plus passionnées de tauromachie de toute l'Espagne. Et donc, là-dessus, l'interdiction, la fameuse interdiction d'il y a 3 ans du Parlement de Catalogne, s'est faite au prix d'une entente entre les protecteurs des animaux qui voulaient interdire toutes sortes de spectacles taurins, et les députés de Convergencia y Unió, des députés catalanistes, qui eux disaient on interdit la corrida pour les raisons que vous avez dites, c'est-à-dire c'est un symbole de la vieille Espagne, de Franco, etc. Mais on va défendre le patrimoine catalan, qui sont les cordebaus, qui sont les formes catalanes du sud de la Catalogne et du pays de Valencia.
Où on pousse les taureaux dans les rues.
De courses de taureaux, qui sont également, enfin, qui sont assez violentes aussi pour les animaux, mais il n'y a pas de mise à mort. Et les députés écologistes ont été obligés d'avoir leur chapeau, fut-il en bio, parce qu'ils ont été obligés d'accepter ça, alors qu'ils étaient contre.
Frédéric Sommat, je voudrais comprendre justement, on parle là déjà de politique. Clivage politique on peut établir. Est-ce qu'il est juste, par exemple, de dire que globalement la droite conservatrice espagnole est pro-corrida, alors que les indépendantistes catalans et la gauche, disons, espagnole, et notamment la gauche radicale de Podemos aujourd'hui, y sont opposés? Est-ce que c'est une lecture politique qui a un sens?
Ça a un certain sens, mais c'est évidemment excessif, comme tous les clivages absolus. Il y a évidemment beaucoup de gens qui sont de gauche et qui aiment la corrida, et il y a beaucoup de gens de droite qui ne l'aiment pas. Je veux dire, c'est complètement... Mais c'est effectivement un clivage dont on ne peut pas nier la réalité, d'autant que bon, le milieu de la corrida est un milieu assez conservateur, il faut bien le dire. Les éleveurs de taureaux, généralement, sont des grands propriétaires en Basse-Andalousie ou en Castille, du côté de Salamanque, etc., qui sont en général bon, comme tous les grands propriétaires, ne sont pas vraiment des collectivistes. Donc, ils ont plutôt des idées de droite. Hein, et il est clair qu'à l'époque de Franco, la grande propriété latifondière d'Andalousie, avec les éleveurs de taureaux, ont défendu le régime franquiste.
Et en tout cas, ce qu'on a pu constater, Frédéric Sommat, c'est que la vague de gauche qui a gagné nombre de municipalités aux dernières élections a engendré toute une série de prises de position contre la tauromachie. On a vu à Palma de Mallorca qui s'est déclarée ville anti-taurine, on a vu la Corogne où des spectacles qui ont été annulés, à Madrid même où la nouvelle mairesse Manuela Carmena a retiré des subventions pour les corridas. On voit bien que la gauche radicale veut mettre à mort d'une certaine manière les corridas. C'est assez clair en tout cas. Comment vous voyez-vous l'avenir de tout ça? On constate des interdictions un peu partout, locales, de corridas qui se multiplient. Est-ce que vous pensez que finalement ces traditions culturelles vont survivre aux assauts législatifs? Comment vous voyez l'avenir?
Écoutez, l'avenir, je suis pas devin, hein. Bien entendu, mais j'observe des évolutions et il est clair que d'abord, ça peut-être un argument qui va faire hurler les militants de la protection animale, mais c'est évident que la corrida d'aujourd'hui n'a plus grand chose à voir. Si, elle a à voir, mais n'est pas celle d'il y a un siècle. Mmh. Et aujourd'hui, je mets au défi n'importe quel aficionado d'aujourd'hui de pouvoir supporter la vision d'une corrida d'il y a un siècle, lorsque les chevaux étaient étripés, parce qu'ils n'étaient pas protégés. Les chevaux des picadors étaient étripés dans l'arène, et ça faisait partie du spectacle. C'est un spectacle qui aujourd'hui serait insoutenable.
On a commencé à les protéger dans les années 1930.
Oui, c'est ça, à partir des années 1930. Mais là, je veux dire, l'esprit de la corrida et d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a un siècle. Mmh. Et c'est un spectacle beaucoup moins violent et avec des occurrences spectaculaires. Justement, on va de plus en plus vers le spectaculaire. Et ce qui est valorisé dans la corrida d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus les passes de cap et de moulette qui ne sont pas blessantes pour le taureau, que les jeux de pique et la mise à mort finale, qui certes existent toujours, et c'est un spectacle toujours violent pour l'animal, on ne nie pas bien sûr ça, mais beaucoup moins qu'il y a un siècle. Hein. Et aujourd'hui, lorsque le spectacle a été considéré comme parfait, c'est-à-dire que justement ces phases de cap et de moulette en particulier ont été exécutées à la perfection par le matador, hein, et que le taureau a répondu aux attentes du public de manière extraordinaire, jugée extraordinaire par le public, eh bien les gens demandent la grâce du taureau, et le taureau est effectivement gracié. Donc, l'absence de mise à mort, le fait de dépasser la mise à mort dans la corrida même est au cœur de l'évolution actuelle de la corrida. Ça, on ne peut pas le nier, ce sont des faits. Hein. Et alors, le taureau gracié, idéalement, il est soigné sur les pâturages et ensuite il sert à la reproduction de l'élevage. Donc, mon explication anthropologique générale du fait tauromachique, c'est qu'entre les tauromachies sans mise à mort et les tauromachies avec mise à mort, on a là une représentation magistrale, spectaculaire, hein, du cycle de vie et de mort de l'animal qui est domestiqué depuis la révolution néolithique. Et qui a défini d'une manière extraordinaire le bœuf, hein, le bœuf et le cheval, et son complément le cheval, a défini de manière extraordinaire justement les relations que cette civilisation néolithique qui ensuite s'est diffusée au Nouveau Monde où il n'y avait ni bœuf ni cheval. Et là, on va en reparler.
Mais justement, allons vers le Nouveau
Monde.
Donc,
si vous voulez, c'est ça la justification de tout ça. C'est qu'il y a, ce sont des spectacles diversifiés et qui ont une valeur anthropologique extraordinaire en ce qu'ils représentent la relation de l'homme, du bœuf et du cheval entre les cycles de vie et de mort, hein, qui sont les cycles mêmes. Qui sont liés au processus domestique.
Allons donc justement vers le Nouveau Monde, parce que ce qui est particulièrement intéressant dans votre travail, c'est justement de comprendre toutes les déclinaisons qui existent aujourd'hui. Peut-être que c'est ça aussi que les auditeurs connaissent moins. En tout cas, pour en finir justement avec cette corrida espagnole, cette interdiction de la corrida Catalogne, ce rejet de cette culture hispanique... On avait déjà vu ça justement en Amérique latine au moment des indépendances. Il y a un certain nombre de pays, Mexique, Pérou, Colombie, Venezuela, Équateur, qui se sont finalement débarrassés des jeux taurins en même temps que de l'ancien colonisateur, en les transformant.
Votre liste de pays, c'est l'inverse. C'est ceux qui ont adopté, au contraire.
D'accord.
La corrida.
Oui, mais en les transformant.
Alors,
il y a eu un rejet de la version finalement hispanique.
Dit, c'est l'inverse. Hein.
D'accord.
C'est-à-dire dans les pays que vous avez dit, Mexique, Colombie, Venezuela, Équateur, Pérou, ce sont les pays qui ont gardé la corrida et qui en ont fait une tradition nationale. Au contraire, avec quelques aménagements comme au Mexique.
C'est ce que j'allais vous dire.
Mais ils n'ont pas rejeté, au contraire.
Hein, oui, mais qui l'ont transformé.
Ils ont légèrement transformé, mais surtout, ils ont développé des formes locales de jeux taurins, des formes de rodéo. Et ça, on va en reparler, parce que l'origine du rodéo, c'est le Mexique, quand même. Hein.
On va en parler. Ambiance, Plaza Mexico, une corrida, c'était il n'y a pas très longtemps, en janvier dernier, avec El Sotoluco, c'est l'un des plus grands matadors mexicains, Plaza de Mexico, l'un des plus grandes arènes du pays, on est avec
du monde,
plus, du monde même, 50 000 places, et évidemment peut-être un gigantisme qu'on ne retrouve pas du côté de l'Espagne. Alors au Mexique, loin peut-être aussi de ces grandes arènes, on a créé des spectacles taurins et équestres spécifiques au pays, ce qu'on appelle la charreada et le jaripeo.
Jaripeo.
Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit et en quoi il se distingue peut-être des jeux, disons, hispaniques? On est très loin quand même de ce qu'on voit du côté de la Catalogne, ce qu'on voyait.
Pas si loin.
Pas si loin.
Pas si loin. Parce que, si vous voulez, ce qui s'est produit au Mexique, c'est quand même extraordinaire, hein, l'histoire du Mexique. Tout le monde sait, Cortés et ses troupes arrivent avec des chevaux. Les Indiens n'avaient jamais vu de cheval de leur vie. Et donc, le cheval, l'arme du cheval, évidemment, sur le plan militaire, est un avantage extraordinaire. Et la conquête doit beaucoup au cheval et aux armes à feu aussi, mais également, et surtout au cheval. Et puis, la colonisation se fait à base de taureaux. Enfin, de bœuf, hein. On va lâcher dans le système d'élevage le système domesticatoire très paradoxal de l'Espagne du Sud, de l'Andalousie et de l'Extrémadour, qui est un élevage extensif où on laisse le bétail livré à lui-même sur des immensités sauvages. Hein, et le bétail comme les chevaux, les bovins comme les chevaux n'ont pas besoin de l'homme pour survivre à partir du moment où ils ont de l'eau et des herbages. Ils peuvent survivre et s'ensauvager. Et c'est ce qui se produit au Mexique. Et dès le début de l'époque coloniale, on a des bœufs sauvages qui errent un peu partout. Les vaqueros, les vachers, sont en général pas des Espagnols. Ce sont des Indiens et des métis qui, en dépit de l'interdiction qui leur est faite par les lois de la colonie de monter à cheval, eh bien, on est bien obligé, comme les propriétaires espagnols ou hispaniques ne veulent pas travailler, bien sûr, puisqu'ils veulent jouer au seigneur, ils emploient des manants, hein, des Indiens, des métis qui montent à cheval et qui sont les cowboys des origines, les premiers vaqueros, et qui vont inventer dans le contexte des immensités du Mexique. Le Mexique, il faut penser que c'est la moitié des États-Unis d'aujourd'hui aussi, hein. C'est la Nouvelle-Espagne, ça remonte jusqu'en Californie, au Texas, etc. Vous imaginez des pays, l'immensité des pays. Et c'est là que vont s'inventer des nouvelles techniques, en particulier l'art du piégeage au lasso, qui vient directement, donc je démontre, qui vient directement des arts cynégétiques des Amérindiens lorsqu'il s'agissait de capturer des gros gibiers, en particulier des cerfs, qui est capturé au collet. Donc il y a un art du collet, de l'usage de la corde, qui est très consommé chez les chasseurs amérindiens, et un art pour attraper, pour capturer des bêtes sauvages, que sont devenus les chevaux et les taureaux dans les grands espaces de la colonie, hein, pour les capturer. Et ensuite, une fois qu'on les a capturés, on les enferme dans un enclos, et quand ces bêtes-là sont dans des enclos, ben, elles sont très agressives, hein, elles se laissent pas traire. Et donc, pour les maîtriser, eh ben, il faut un peu jouer avec, et donc se développe un folklore dans le travail de l'élevage, un folklore qui est à l'origine du rodéo et de toutes les formes de rodéo qu'on trouve du nord au sud de l'Amérique, de la province d'Alberta au Canada jusqu'à la Terre de Feu au Chili, où on a des formes diversifiées de rodéo qui correspondent tout à fait aux formes diversifiées régionales de tauromachie qu'on trouve en Europe.
Alors, c'est le même processus. Avant d'en venir justement à ce rodéo dans sa forme, j'allais dire états-unienne, sur la charreada par exemple, vous dites, elle s'apparente à une parodie en ce qu'elle renverse les catégories des arts taurins et équestres ibériques. Elle confond l'équitation avec la gestuelle du torero et le bœuf avec le cheval.
C'est
ce que vous écrivez. J'ai pas mentionné pour les auditeurs dans votre ouvrage Mazat, les transformations mexicaines des jeux taurins.
Oui, il faudrait peut-être préciser le contexte de la phrase parce qu'elle vient à la fin d'une analyse longue.
Alors, allez-y,
et
justement.
Que je ne pourrais pas tenir en aussi peu de temps. D'une façon générale, oui, il se produit des processus d'inversion. Et ça, on trouve ça en Europe aussi. Processus d'inversion en Camargue, c'est magistral. C'est le taureau qui prend la place du matador. Hein, le taureau est le héros du spectacle de la course camarguaise. Hein, c'est un héros qui fait carrière et que l'on va jusqu'à, quand il est très très fort, on va jusqu'à statuer sur la place publique. On statue des taureaux vivants sur la place publique des villes de Languedoc et Provence. C'est extraordinaire. On les enterre sous des pierres tombales, on les enterre debout pour les immortaliser. Donc c'est un processus d'inversion de la corrida. On retrouve quelque chose d'équivalent dans les Landes, avec les courses de vaches landaises, où la vache landaise est également une protagoniste, et donc il y a un rapport d'inversion. Il n'y a pas de mise à mort, c'est l'animal qui est extrêmement valorisé. Et on va retrouver des choses comparables au Mexique avec les formes de rodéo et en particulier ce jeu tout à fait mexicain et américain qui n'existait pas en Europe au moment de la colonisation du Mexique, qui est la monte du taureau sauvage. Et ça, voilà, et c'est devenu aujourd'hui le spectacle majeur du rodéo américain. Hein. Et là, c'est un autre paradoxe que j'ai développé dans mon dernier ouvrage, que Cowboy, Clown et Torero, que j'ai publié aux éditions Berg International il y a 2 ans. Et c'est un ouvrage sur les États-Unis, la Californie précisément. Et tous ces adaptations de l'héritage mexicain qui se sont faites dans le sud-est des États-Unis et qui donnent lieu à la tradition, à la fameuse tradition western et la tradition du rodéo d'aujourd'hui. Mais c'est la monte du taureau, c'est une dérision.
C'est la confusion. Des choses qui se font dans des moments très particuliers, notamment dans des carnavals qui sont particulièrement peut-être propices à la subversion. Donc cette inversion, elle vient pas de nulle part.
Pas seulement dans le spectacle du rodéo mexicain qui vient du Mexique et dans le rodéo américain, on monte le taureau. C'est une inversion et une dérision de l'équitation des hispaniques et de la tauromachie. On confond les deux. C'est là que je dis, on confond le bœuf et le cheval, puisqu'on va traiter le bœuf comme un cheval. Et évidemment, le bœuf ne se laissant pas faire, eh bien, il donne un spectacle tauromachique parce que le bull riding américain, si vous regardez ça, vous allez voir, c'est la tauromachie la plus violente que je connaisse pour l'homme, certes. Mais c'est une violence extrême, hein, le bull riding, des hommes qui montent des taureaux d'une tonne, qui sont d'une violence extraordinaire. Hein. Et donc, il ne faut pas croire que les États-Unis sont à l'écart, malgré la puissance des protecteurs des animaux là-bas.
Prenons la direction des États-Unis. Voilà, on est dans une ambiance très différente là par rapport à ce qu'on entendait tout à l'heure sur le Mexique. On est là bien au cœur des États-Unis et pourtant ces rodéos, et vous le disiez, eh bien il trouve ses origines dans ce Mexique. Rodeo, d'ailleurs l'espagnol, hein, rodear, qui veut dire encercler, tourner autour. Donc il a clairement ses origines hispaniques, mais ce rodeo là, qui est parfaitement américain, qui incarne ce folklore états-unien. Quand et comment est-ce qu'il émerge? Comment est-ce qu'il va progressivement devenir un élément, finalement, de l'identité états-unienne?
Ça, je crois que le rodéo, c'est tout le côté passionnant du sujet, reflète absolument tous les paradoxes de ce pays, hein, qui d'abord démarre avec les colonies de la Nouvelle-Angleterre comme des États puritains, enfin tournés vers l'Angleterre, qui tournent le dos à l'Ouest, et puis ensuite ce processus progressif de conquête de l'Ouest, qui est une folie pour les puritains de la Nouvelle-Angleterre, hein. Traverser les Appalaches et aller de l'autre côté, se confronter aux Indiens que les puritains évidemment détestaient et méprisaient complètement, c'était une pure folie. Et donc dans ce processus qui va se développer au XIXe siècle, les colons de l'Est qui partent vers l'Ouest, dont on sait qu'ils sont pas les plus riches, évidemment, c'était des gens qui n'avaient rien, hein, qui partaient comme ça, et qui, eh bien, ils vont eux-mêmes adopter toute une série, déjà pour survivre, hein, dans ces milieux très très difficiles, hein, toute une série d'usages à la fois des Indiens et des Mexicains qui vont trouver, en particulier dans l'Ouest et dans le Sud-Ouest, hein, qui faut le rappeler, jusqu'en 1848, hein, et au traité de Guadalupe et d'Hidalgo, qui finit la guerre entre les États-Unis le Mexique, eh bien, tout le sud-ouest des États-Unis appartient au Mexique. Hein, le Texas a son indépendance en 1836, puis en 1848. Donc, on a tout un folklore, tout ce que j'ai décrit précédemment sur l'origine du rodéo comme un spectacle de vacher, hein, au départ. Enfin, un folklore de vacher. Eh bien, il est là présent quand les États-Unis envahissent la ruée vers l'or, tout ça, ils envahissent. Il y a tout ce folklore-là, il y a tous ces Mexicains, il y a tous ces gens, il y a ces Indiens qui sont à l'origine de ces techniques d'usage du lasso, etc. Il y a toutes ces techniques de survie dans les grands espaces dont les Indiens sont évidemment les maîtres. Et les Blancs anglo vont être obligés, finalement, de s'y conformer d'une certaine manière. Ils vont reprendre ces usages, et ils vont reprendre ces usages à leur compte, en particulier dans le traitement du bétail.
Et par ailleurs, aux États-Unis, cette corrida avec la mise à mort, elle a existé, elle a été pratiquée. Elle a ensuite été interdite, je crois, dans la seconde moitié du 19e siècle. Mais est-ce que, d'une certaine manière, vous diriez que le Roméo est venu remplacer, justement? Est-ce que vous diriez qu'on a là une nouvelle tauromachie qui dit pas vraiment son nom?
Oui, c'est ça. Non, mais c'était exactement ça. Le rodéo est un avatar de la tauromachie. Ça, c'est l'évidence historique. C'est ce que je démontre avec mon collègue Jean-Baptiste Maudet, géographe, avec qui j'ai publié ce dernier livre. Ce que nous démontrons de manière irréfutable, là, que c'est effectivement un héritage hispano-mexicain, l'héritage du métissage mexicain qui est repris par les États-Unis pour en faire un spectacle national.
Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous dites qu'il y a un premier paradoxe aussi dans la diffusion du rodéo, c'est qu'il a commencé à se populariser d'abord et avant tout chez les victimes de l'histoire états-unienne, c'est-à-dire les Indiens.
Mais oui, mais enfin, c'est surtout eux qui sont à l'origine du truc. Hein, je veux dire que ces adaptations, ces métissages des formes d'élevage et de jeu taurin d'origine espagnole, eh bien, ce sont les Indiens qui sont les Indiens et métis, hein, qui sont directement à l'origine de ça. Hein, donc les deux grands moments du rodéo, c'est-à-dire la monte du taureau et la monte du cheval sauvage, et les piégeages au lasso, les exercices de piégeage au lasso, qui sont quand même emblématiques, hein, du cowboy américain aujourd'hui, hein, eh bien viennent directement du métissage mexicain. Et ça, c'est absolument c'est historique. On le montre d'ailleurs. Bon, mais par rapport au rodéo, il est évident que le rodéo porte la trace, le rodéo américain, de la corrida. Et je vais en donner un exemple très précis. C'est le personnage du clown dans le rodéo, le rodéo clown, hein, qui est à la fois un comique et en même temps c'est le sauveteur du monteur de taureaux, en tout cas dans les rodéos jusqu'à dans les années 80, c'était le clown qui jouait le rôle de bullfighter, c'est-à-dire de torero, c'est-à-dire celui qui va sauver le monteur de taureau au moment où il est démonté par le taureau furieux, hein, et qui va, en faisant des passes de cap ou des écarts à la manière des landais ou des camarguais, et qui va sauver, faire le kit, comme on dit dans la tauromachie espagnole, qui va sauver le monteur, et c'est le clown qui est ce personnage-là. Et aujourd'hui, depuis les années 80, ce rôle, c'est précisé, d'un côté il y a le clown qui fait rire et d'autre côté il y a des bullfighters qui sont spécialisés, qui ne font que ça.
Et donc il s'appelle... Ce clown qui fait rire, on l'entend là, écoutez. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas aux États-Unis, on est au Mexique. Molas, dans le Yucatan, c'est une toute petite localité, 2000 habitants, mais on a justement ces clowns qui provoquent ces petites vaches inoffensives, qui les attrapent par la queue, qui s'accrochent à leur cou, on a nombre de pitreries, et finalement c'est aussi cette figure du clown qu'on va retrouver, alors au Mexique on appelle ça les charlotadas. Mais finalement, c'est aussi cette figure du clown qu'on trouve aussi du côté du Mexique. Alors, très différente, bien sûr.
Non, absolument. Le clown intervient dans les jaripeos mexicains, qui sont c'est la version mexicaine de la monte du taureau, hein, du rodéo sur taureau. Et puis, la clownerie a un grand rôle dans l'ensemble des traditions tauromachiques, hein, puisqu'en Europe aussi, hein, les clowns toreros existent. Hein, il y a des spectacles comico-taurins et il y a une longue tradition de clownerie tauromachique. Hein. Et donc, la relation entre le rire et la mort est ici fascinante. C'est quelque chose que j'ai beaucoup analysé dans mes travaux. Hein. Et la relation entre le cirque et la tauromachie, qui aux États-Unis prend son essor littéralement de manière magistrale avec le rodéo, hein, avec la présence du clown. Et l'origine du rodéo américain, c'est les traditions mexicaines de rodéo qui existaient dans le sud-ouest quand les États-Unis ont envahi. Et le cirque de Buffalo Bill, qui là aussi est un moment extraordinaire, hein, avec le cirque de Barnum et le cirque de Buffalo Bill est le premier spectacle américain qui est diffusé en Europe, hein, qui fait des tournées en Europe et qui va promouvoir les héros. De quoi? Ben du spectacle majeur du XXe siècle et du XXIe siècle, c'est-à-dire du cinéma, hein, les héros du cinéma, c'est-à-dire le cowboy, l'indien, le mexicain contre le cowboy. Et le clown, et parce que le clown cinéma américain.
Vous dites que le clown bullfighter, il participe au processus de sportivation du rodéo.
Ah oui, mais bien sûr, parce que le clown bullfighter d'aujourd'hui, il est spécialisé dans le bullfighting, ce que les Américains appellent bullfighting, c'est-à-dire la corrida en fait. C'est la corrida, mais c'est sans mise à mort, et c'est l'art de faire des esquives au taureau pour sauver le monteur de taureau. Mais ils ont atteint un tel niveau de technique, de technicité et de compétences sportives en même temps, que ils ont maintenant c'est développé un spectacle autonome qui s'appelle freestyle bullfighting, la corrida freestyle. Style américaine, évidemment, sans mise à mort.
Avec mais où des vrais clones, professionnels.
Des vrais professionnels. Avec très, des ligues. Très compétents et qui font un jeu qui s'apparente de manière absolument frappante à la fois à la course camarguaise, au rasé de la course camarguaise, aux écarts de la course landaise et aux formes de course navarraise, de quiebros qu'on trouve là-bas. Et donc, c'est un retour de la tradition nord-américaine du spectacle à travers le cirque. Hein, l'importance du cirque, on va en reparler.
On va en reparler tout à l'heure.
Caroline Odak de l'Épine, mais le cette tradition américaine hein, finalement qui revient à la tauromachie par le bullfighter, ce personnage éminemment paradoxal. Alors d'un côté les États-Unis rejettent la corrida comme quelque chose d'absolument malsain, de l'autre côté de la frontière du Mexique, le Mexique étant le pays stigmatisé par définition aux États-Unis, mais en même temps transforme son rodéo ou fait revenir le rodéo à ses origines, c'est-à-dire à la tauromachie d'une part par le fait que le bull riding, donc la monte du taureau, est devenu le sport le plus populaire aux États-Unis dans le rodéo, hein, dans le milieu du rodéo où il y a beaucoup d'argent, hein. Un taureau champion de rodéo aujourd'hui, il y en a pour $1 million si vous voulez l'acheter, hein, le numéro 1. Et le numéro 1 des monteurs de taureaux aux États-Unis, il se gagne $1.5 million.
Ah oui, on gagne des millions de dollars dans toutes les disciplines, dans le bull riding, mais aussi dans le roping, dans le barrel racing.
Oui, mais alors surtout le bull riding, c'est là qu'il y a le plus d'argent. Et donc cet emblème de l'hispanité que le taureau est devenu un emblème des États-Unis. Hein. Et puis les freestyle bullfighters, hein, c'est clones toreros qui font leur spectacle à eux très populaire aux États-Unis.
On est avec Frédéric Sommade, auteur notamment de ce livre Cowboys, Clowns et Toreros, l'Amérique réversible, c'était chez Berg il y a 2 ans.
Avec la collaboration de Jean-Baptiste Maudet. Hein.
Voilà, des corridas au combat de coq, l'animal au cœur du jeu, c'est notre sujet ce matin. Et justement, on va parler du coq.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Les combats de coq, donc on va prendre l'exemple du Timor dans un instant, mais on se souvient que l'année dernière, le Conseil constitutionnel français avait interdit l'ouverture de nouveaux gallodromes, autorisant ceux qui existent déjà. Le combat de coq est en train de perdre ses dernières plumes, en tout cas pour ce qui est de la France, mais c'est pas le cas partout.
Tout le monde aime les combats de coq, on ne trouve pas ça violent, c'est comme un sport.
C'est un sport qui va en quelque sorte avec la nature de l'animal. Il se battrait de toute façon, même si on ne les entraînait pas.
On a des combats de coq depuis longtemps, c'est la culture locale. Les différentes régions, chacune leur espèce, qu'ils emmènent au combat.
Voilà donc ce combat de coq du côté de la Thaïlande, mais en réalité c'est dans toute la région qu'on va retrouver ces pratiques. On va s'intéresser en particulier au Timor, on va tenter de comprendre les mutations en cours dans ce pays au regard des combats de coq autour desquels se jouent beaucoup de choses, tout un système de représentation, des activités économiques, une certaine sociabilité. Bonjour Marie Redon. Marie Redon, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à Paris 13, au laboratoire de géographie. Alors, un tout petit mot quand même sur le Timor, qui est une toute petite île de l'archipel indonésienne. Sa moitié orientale a obtenu son indépendance il y a une quinzaine d'années maintenant, en 2002, devenant la République du Timor oriental. C'est un pays assez pauvre, mais on a des ressources en hydrocarbures qui laissent entrevoir quand même des perspectives intéressantes et qui font que du coup, le pays est en train de se transformer. D'abord, un petit mot, Marie Redon, parce que c'est vrai qu'on associe très souvent les combats de coqs à la région de l'Asie du Sud-Est, ou même parfois aussi aux Caraïbes, en tout cas dans de petites poches géographiques. Mais en réalité, c'est une pratique qui existait un petit peu partout dans le monde, et qui a progressivement été arrêtée, oubliée. Donc l'argument qu'on entend dans la bouche de ses défenseurs, consistant à dire qu'en fait il fait partie intégrante d'une certaine culture locale, c'est pas complètement recevable, en ce sens qu'en réalité, dans le passé, c'est quelque chose qui était très bien partagé par toutes les cultures, Marie Redon.
Alors oui, en effet, on retrouve la pratique des combats de coqs j'allais dire, de mémoire d'homme et de mémoire de domestication. Et en ça, je rejoins totalement mon collègue Frédéric Sommade, donc, qui expliquait tout à l'heure ce lien entre la domestication des animaux et la pratique de la tauromachie dans son cas. Eh bien, pour les combats de coqs, dès que les poules et les coqs ont été domestiqués, on s'est bien rendu compte que quand on mettait deux coqs dans une basse cour, ils se battaient. Et donc, on retrouve des traces, y compris dans la Haute-Égypte, par exemple, de combats de coqs. Alors cette pratique serait diffusée ensuite au fur et à mesure où la domestication des animaux s'est également diffusée, avec une circulation plutôt d'est en ouest, hein, de l'Asie petit à petit vers l'Europe, et puis avec la colonisation de l'Europe vers l'Amérique latine. Là aussi on peut faire le parallèle.
Alors Marie Redon, l'un des éléments évidence central dans cette affaire-là, dans ces combats de coqs, c'est l'argent. C'est précisément parce qu'il y a de l'argent que les combats de coqs sont aussi importants, aussi populaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être en quelques mots comment s'organisent les paris dans ces combats, comment ça se passe quand on décide de parier sur un coq? Et puis plus généralement, et c'est ça qui vient de nous intéresser, parce que depuis quelques années, l'État du Timor a décidé de réguler les jeux d'argent et donc aussi les combats de coq, et voir en quoi ça a transformé finalement la pratique, Marie Redon.
Alors sur le lien entre jeux d'argent et combats de coqs, il faut aussi recontextualiser, c'est-à-dire dans le cas du Timor, si on est dans des espaces reculés, dans les montagnes, il peut se produire des combats et des affrontements sans mise d'argent, simplement pour l'honneur et puis pour passer le temps, puisque c'est un loisir et que ça occupe aussi de se divertir en regardant des coqs se battre. Pour ce qui est du système des paris, quand ils sont monétarisés, généralement dans l'arène ou autour du galodrome, du Fatim Futumanu, comme on dit au Timor, d'abord les hommes se promènent avec leur coq sous le bras, et puis ils vont se jauger, mettre en présence un peu les coqs, voir s'il se passe quelque chose entre eux, s'il y a un peu de l'électricité dans l'air entre eux, et ils repèrent un peu comme ça les potentiels paires de combattants. Et une fois que les coqs sont mis en présence sur l'arène elle-même, eh bien dans la foule, les gens vont chercher un partenaire de pari, c'est-à-dire que j'ai décidé de miser sur le coq rouge et je vais chercher autour de moi quelqu'un qui veut miser sur le coq blanc, par exemple. Et donc on crie coq rouge, coq blanc, etc. avec des dollars dans les mains, hein, puisque la monnaie utilisée au Timor oriental depuis son indépendance est le dollar. Et on essaie de trouver quelqu'un qui va parier la même somme contre le coq adversaire. Il y a deux systèmes de paris, hein, celui qui se fait autour, donc la nuée de petites paris autour de l'arène où on parie avec ses voisins principalement, et puis le pari principal qui lui a lieu entre les propriétaires des coqs au centre de l'arène, et où là les sommes peuvent être beaucoup plus importantes qu'autour. J'entendais tout à l'heure Frédéric Sommade parler de taureaux dont les sommes atteignent 1 million de dollars. Alors là évidemment on n'est pas sur ces mêmes sommes, notamment au Timor qui, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, un pays avec un niveau de vie plutôt bas pour l'instant, malgré l'arrivée du pétrole, mais on peut aller jusqu'à 1 000, 1 500, 2 000 dollars pour un coq de combat valeureux, disons, de haute volée, si je puis dire, et les paris vont aller de quelques petites poignées de dollars jusqu'à parfois 700, 800 dollars pour les plus grands parieurs et les plus forts miseurs.
Oui, donc ça peut être important. Quel est le profil justement de ces parieurs? Des hommes plutôt, des femmes aussi? Est-ce que les jeunes aussi assistent, parient, participent à tout ça?
Alors c'est un milieu qui est très largement masculin, ça c'est certain. Hein. Et d'ailleurs il y a un lien qui est immédiat et direct entre virilité et combat de coq, c'est que le terme même qui désigne l'animal désigne le sexe masculin, de la même façon qu'en anglais, hein, coq. De la même façon, ou encore en créole, puisque j'ai aussi travaillé sur les combats de coqs en Haïti, on désigne encore une fois sexe masculin et coq de la même façon. Donc quand on dit mon coq est le plus fort, c'est assez transparent comme métaphore. Donc la masculinité des combats de coqs, je pense qu'elle est universellement partagée, en tout cas dans tous les endroits où ils ont lieu. Ensuite, pour ce qui est du profil générationnel, et c'est ça qui est important de souligner, c'est que justement il n'y en a pas. On peut tout à fait voir dans la même arène un vieux monsieur qui vient endimanché avec un élégant chapeau et un costume pour aller assister de façon exceptionnelle à un combat de coq, et on a l'impression qu'il fait évidemment ça depuis des décennies. Et puis à côté, un jeune homme avec un bonnet style Rasta, un t-shirt bariolé, qui lui aussi va venir au combat de coq. Donc ça mêle.
Mais vous dites qu'à mesure que le pays se développe, les combats attirent de plus en plus de jeunes urbains justement, qui viennent tenter leur chance.
Alors déjà de jeunes, parce que bah, c'est un pays qui est très jeune, hein, oui, c'est-à-dire l'âge médian est de l'ordre de 18 ans. Donc quand on a la moitié de la population qui a moins de 18 ans, évidemment, on a une démographie qui tire plutôt vers le bas hein, en termes d'âge. Et puis, deuxième élément, c'est qu'on a une urbanisation qui est très rapide de ce pays, au fur et à mesure de son ouverture, de son internationalisation, de sa globalisation et de sa connexion au reste du monde. Et ces jeunes urbains, eh bien, vont au combat de coq. Mais on peut tout à fait les trouver au combat de coq en train, en même temps, d'être sur leur téléphone portable sur Facebook et de commenter le combat de coq sur Facebook. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les combats de coq qui appartiendraient à une espèce de tradition archaïque et dépassée, et de l'autre côté, la modernité qui balayerait d'un revers de main ce qui serait de l'ordre d'une violence à cacher.
Vous parliez de modernité, vous parliez de connexion au reste du monde. Évidemment, la majorité des coqs sont élevés sur place, mais il y en a d'autres qui sont importés. Et d'ailleurs, les coqs étrangers sont réputés plus combatifs, comme si finalement, justement, ce qui provenait de l'extérieur était forcément bénéfique d'une certaine manière.
Oui, alors ça c'est un phénomène qu'on retrouve au Timor, mais pas uniquement, avec cette idée que les coqs locaux sont valeureux parce que locaux, et donc de la même façon quand on a son équipe nationale qui joue, on a toujours une tendresse pour son équipe nationale, mais il n'empêche que les poids lourds, ceux qui ont fait leur preuve et qui sont en haut de la hiérarchie des coqs combattants, ça va être pour le cas du Timor, les coqs philippins par exemple, hein, qui sont les plus chers, et on a tout un marché avec des vendeurs intermédiaires qui vont aller aux Philippines, ou alors qui vont aller au Cambodge, qui vont aller à Singapour, et qui vont ramener des coqs combattants. Et puis après, on a une deuxième génération de coqs, c'est-à-dire des coqs nés au Timor, mais de parents, si on peut dire, philippins, et qui, eux, sont aussi plus chers que les coqs locaux. Et ça, c'est récent. Ça date des années 80. Quand on discute avec les anciens, ils disent « Avant, on jouait qu'avec des coqs locaux. » Mais maintenant que le pays s'ouvre, évidemment, ça s'ouvre de toutes parts, y compris en ce qui concerne les combats de coqs. Et il n'y a pas que les coqs, il y a aussi le matériel qui va avec, la nourriture qu'on leur donne, par exemple. Alors, un coq philippin de première catégorie, on va le nourrir avec des farines vitaminées, on va lui faire des injections pour améliorer ses performances, alors qu'un coq local, on va avoir tendance à lui donner plutôt du maïs basique acheté sur le marché, ou qui a poussé juste à côté. Et puis, troisième élément, le matériel, puisque en Asie du Sud-Est, on arme les coqs, on leur met des lames aux ergots, hein, qu'on appelle localement des taras, et ces taras, de la même façon, sont souvent importés de Singapour, de Bali ou des Philippines, par exemple, et ils sont arrivés avec la colonisation portugaise.
Alors, en fait, il y a toute une économie, alors peut-être, Marie Redon, en fait, il y a toute une économie, même si elle est informelle aujourd'hui, toute une économie qui tourne autour de ces combats de coqs. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, l'État, pourrait chercher justement à, d'une certaine manière, formaliser tout ça? Après tout, on peut se dire que ça peut rapporter aussi de l'argent. Et d'une certaine manière, la décision en 2008 de réguler les jeux d'argent et en particulier les combats de coqs, ça va dans ce sens.
Alors, c'est incontestablement un secteur d'activité majeur, hein, à plusieurs échelles, à la petite échelle locale jusqu'à des gros entrepreneurs, hein, qui, comme on disait tout à l'heure, font venir les coqs de l'étranger. La volonté de l'État de réguler, bien, il y a qu'à regarder chez nous, hein, ce que rapportent les jeux d'argent, c'est quand même plusieurs milliards d'euros tous les ans qui concernent les jeux d'argent en France. Donc c'est considérable, et ce qui est fait en France, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas envie de le faire ailleurs. Alors le jeune État timorais, donc né en 2002, vous l'avez rappelé tout à l'heure, a mis en place une législation sur les jeux d'argent dès 2009, donc c'est-à-dire hein, assez rapidement, avec l'idée de à la fois mettre en place un outil de justice, hein, c'est-à-dire pour dire il faut qu'on puisse contrôler les jeux d'argent, mais sans du tout les interdire. Et les combats de coqs qui font partie de la tradition, hein, c'est ainsi que c'était inscrit dans la loi même, hein, dans le décret de loi de 2009, il faut continuer à la pratiquer. Évidemment, les sommes d'argent qui circulent, je l'ai dit tout à l'heure, sont relativement considérables. Et là, l'objectif, c'est au lieu d'avoir une circulation qui reste locale de cet argent, à l'échelle des districts, hein, puisque le Timor est quand même majoritairement rural, de faire remonter une partie de cet argent à l'échelle de l'État centralisé. Mais derrière cet enjeu des combats de coqs, qui reste important, mais bon, somme toute secondaire, il y a d'autres enjeux qui se jouent, parce que le Timor a autorisé, l'ouverture de casinos sur son territoire, dans une petite île qui est en face de la capitale d'Ili et qui s'appelle l'île d'Atauro, et dans une enclave qui se situe en territoire indonésien qui s'appelle Owekusi. Et une des pistes de développement du Timor à côté de la piste pétrolière qui elle est déjà active, c'est de dire nous sommes le voisin d'un énorme pays en termes de population, l'Indonésie a plus de 250 millions d'habitants, dans lesquels les gens aiment jouer mais n'ont pas le droit de jouer, et donc on pourrait profiter de cette manne à la fois touristico-économique liée au...
Et oui, on sent qu'il y a des perspectives de développement qui sont intéressantes, et notamment cette question du combat de coq participe de tout ce développement. Merci beaucoup en tout cas Marie Redon d'avoir été avec nous ce matin. On va s'intéresser pour finir cette émission au cirque. Le Parlement de Catalogne, encore lui, a récemment voté massivement pour l'interdiction d'utiliser des animaux sauvages dans des cirques. Au niveau national, on a plusieurs pays qui interdisent d'utiliser tout type d'animal. Je pense à la Grèce, à Malte, à Chypre. D'autres interdisent seulement les animaux sauvages. Et puis, il existe un petit peu partout des interdictions locales. En France, dans notre imaginaire, le cirque, c'est intimement lié quand même à la présence d'animaux. C'est d'ailleurs, bien sûr, la position de Gilbert Delstein, grande figure du cirque Pinder, qu'il a dirigé pendant de nombreuses années avant de passer la main à son fils.
Il y a un rôle d'utilité publique parce qu'on distrait les gens, et puis un rôle aussi d'utilité publique parce qu'on sauvegarde des races. Si vous les laissez dans la nature, ils sont ou victimes des gens qui leur tirent dessus. Mon fils a sauvé 12 lions blancs qui étaient destinés à des chasses pour des nantis. Vous laissez des lions entre eux, au bout d'un moment, vous trouvez que des cadavres. En plus, c'est peut-être une protection de l'espèce. Comment un gosse peut voir des tigres à l'heure actuelle? Il y en a de moins en moins. S'il n'y en avait pas dans les zoos, s'il n'y en avait pas dans les cirques.
Oui, j'aime le cirque. Les animaux surtout, les éléphants. Si on enlevait les animaux, ça serait pas pareil. J'aurais moins envie d'y aller, oui.
Et oui, des éléphants, il y en a au cirque Pinder, puisque c'est la mascotte justement de ce cirque. Un cirque sans animaux, est-ce que c'est toujours un cirque? Voilà la question qu'on a posée à l'une des grandes spécialistes du cirque, historienne du cirque, Caroline Audac, auteure d'une thèse sur la commercialisation des loisirs. Comment l'histoire du cirque nous permet de répondre à cette interrogation? Elle est au micro de Tiphaine de Roquigny.
Si on devait dire qu'un cirque sans animaux n'est pas cirque, c'est surtout un cirque sans cheval qui ne serait pas cirque. À l'origine du cirque est le cheval. Le cirque était avant tout théâtre équestre. Donc s'il y a un cirque plus cirque que les autres aujourd'hui, c'est peut-être Bartabas avant tout. Si on veut inscrire le cirque dans une généalogie et une histoire qui suivrait qu'une seule et même épine dorsale, un certain cirque disparaîtrait, mais pas le cirque.
En 1992, le cirque Plume crée le spectacle No Animaux, Mas Anima, dans lequel, dans une parodie de numéro de dressage, le rôle du fauve est interprété par un homme. C'est une façon de faire de l'absence d'animaux un élément fondateur du cirque contemporain. Que signifie cette posture, selon vous ?
Alors, dans le cadre du cirque Plume, ce spectacle, qui était leur troisième spectacle, marque vraiment un tournant et devient même un manifeste pour tous les défenseurs, d'une part de la disparition des animaux, parce qu'il y a quand même aussi une dimension engagée chez certains, mais il y a aussi pour le nouveau cirque, parce qu'à l'époque, donc les années 90, on parle de nouveau cirque, l'idée de défendre un cirque différent. Mais il y a aussi celle de rappeler que le cirque à l'origine, et donc là c'est aussi un clin d'œil au propos d'Edelstein que je considère fallacieux, le cirque à l'origine comportait une dimension narrative que porte le nouveau cirque des années 80-90 et aujourd'hui les différentes formes artistiques de cirque qui en ont découlé. Donc c'est un manifeste important que ce spectacle. Le monde du cirque au cours des années 80-90 connaît une redéfinition totale avec justement l'émergence de nouvelles formes, elles-mêmes découlant de traditions, mais ces formes émergentes étant portées par des troupes, des acteurs, des artistes issus du théâtre de rue, du théâtre tout court, voire de la marionnette, ont besoin aussi de se démarquer des tenants d'une certaine tradition, en l'occurrence de la vieille école du cirque, d'un cirque qu'on dit aujourd'hui traditionnel, dont le cirque Pinder, le cirque Grus étaient les tenants ou sont encore les tenants. Alors c'est une façon de se démarquer et en même temps de rappeler que le cirque est un spectacle qui donne à réfléchir et qui n'est pas seulement une succession de numéros, d'exhibitions, comme beaucoup de numéros d'animaux l'ont été à l'origine et le sont toujours. La démonstration de l'étrangeté n'est pas le propre du spectacle du cirque. Le cirque a quelque chose à raconter, peut être politique, et l'a été pendant des années. Et à travers ça, c'est aussi ce qui est à comprendre dans la revendication et le manifeste qu'était ce spectacle de Plume.
Est-ce que dans les autres pays occidentaux, l'émergence du cirque contemporain est intimement liée à l'absence d'animaux, comme en France ?
Ce mouvement est totalement transversal. plutôt occidental, et avant tout occidental. Il a été grandement porté par la France, qui a été précurseur, et notamment par le soutien que le ministère de la Culture a assez rapidement porté au théâtre de rue et aux arts de la piste en tant qu'institution, mais aussi parce que la France offrait des espaces d'expression culturelle où ces nouveaux genres ont pu émerger et prendre pied, influençant des créations à l'étranger. Et la disparition des animaux de la scène est encore plus portée à l'étranger qu'il n'est en France, parce qu'en France, en effet, il y a certaines familles présentes depuis longtemps, les Bouglione, les Grusse ou l'entreprise d'Edelstein, qui revendiquent un certain cirque, alors que celles-ci n'existent pas du tout ou n'ont pas forcément les mêmes possibilités de pression à l'étranger. Mais le Cirque du Soleil, par exemple, c'est 22 à 24 spectacles qui tournent simultanément dans le monde, diffusent à beaucoup plus grande échelle que bien d'autres spectacles le fait que le cirque contemporain est sans animaux. Aujourd'hui, dans d'autres pays européens, je pense notamment à la Belgique, mais la Finlande aussi et le Canada, portent et accompagnent un nombre incroyable de compagnies d'art de la piste où l'animal est totalement absent et qui aujourd'hui incarne vraiment les nouvelles orientations du spectacle de la piste, qui d'ailleurs n'est plus toujours sur la piste.
Pourquoi est-ce que les numéros équestres ont été épargnés par ce refus des animaux au cirque ? En France, on a vu par exemple que les chevaux ont été remis à l'honneur par Bartabas et sa compagnie Zingaro. Donc est-ce que ce qu'on rejette en fait, c'est la parenté du cirque avec le zoo ou la corrida ? Et dans ce cas, la performance des chevaux serait exempte de cette critique-là ?
Mais votre question est vraiment fine et aujourd'hui est probablement celle que je trouverais la plus intéressante. On ne questionne pas la présence du cheval chez Bartabas, dans les spectacles de hara, dans les courses hippiques. Donc ce que Bartabas a réussi à faire, et de façon très intelligente, mais vraiment dans une stratégie d'entrepreneur de spectacle qui arrive à passer entre les mailles des lois et des institutions pour se faire reconnaître et obtenir une reconnaissance à part entière, c'est de se revendiquer en tant que théâtre équestre, donc d'éradiquer la dénomination de cirque.
Eh ben voilà, le cirque sans les animaux, c'est possible, hein, nous dit Caroline Audac, historienne du cirque, qui était au micro de Tiphaine de Requigny. En tout cas, l'histoire du cirque nous le prouve. Sans animal, sans taureau, c'est beaucoup plus difficile pour les corridas. Merci beaucoup, Frédéric Sommat, d'avoir été notre invité ce matin.
Merci à vous.
Même si c'est possible, hein, puisqu'il y a d'autres figures, hein, on en a parlé, les cow-boys, les clowns, et bien sûr les toreros. Cow-boys, clowns et toreros, l'Amérique réversible, c'est le titre de votre ouvrage qui est paru en 2014 chez Berck International, mais on mettra toutes les références de vos ouvrages sur la page de Culture Monde sur www.franceculture.fr. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés ce matin.